Presse, 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 presse,
Bonsoir à tous. Oui, donc c'est l'heure de Presse Purée, comme vous avez pu l'entendre, ce Presse Purée qui vrombit sur les ondes de Radio Panique. Alors, Presse Purée, c'est une émission qui s'intéresse à la formation purée que nous ingurgitons tous les jours. C'est un certain regard posé sur l'actualité produite localement et moins localement. Alors, vous trouvez cette purée plutôt indigeste, mesdames et messieurs. Vous vous sentez tout ballonné. Elle avait mauvais goût et vous avez du mal à digérer. Donc, restez branchés sur les ondes du 105.4 FM, sur les ondes de panique, et laissez vrombir, agir le presse purée. Ce soir, en tant que non-expert revendiqué mais de très bonne volonté, les membres de la brigade presse purée se sont intéressés à une actualité lancinante, une actualité violente. Mais c'est le propre de l'actualité, me direz-vous, chers auditeurs, à juste titre. Oui, mais non. La violence dont nous parlerons est particulière, puisqu'elle est exercée de façon abusive par les personnes qui, justement, ont pour mission de la combattre, à savoir des membres des forces de l'ordre. Un abus de pouvoir, en somme. Pouvoir que ces personnes reçoivent de l'État. Violence d'État, donc. On ne sait pas. Ces personnes sont censées connaître la loi pour la faire respecter. Car comme on le sait tous, sans vraiment le savoir, nul n'est censé ignorer la loi. À plus forte raison, un policier. Dérapage, bavure, incident, voire même accident, les termes utilisés pour qualifier cette violence sont multiples. Affaire Théo chez les voisins, chez nous, manif féministe qui tourne en autre boudin, pour épingler deux histoires totalement différentes mais récentes qui ont eu un retentissement dans la presse. On le sait, les temps sont à la sécurité avant tout. Les forces de l'ordre veillent à grand renfort de militaires pour protéger le citoyen. Alors, lorsque ces représentants de ces mêmes forces de l'ordre dérapent, que ces dérapages sont rendus publics, que leur ampleur est pour le moins inquiétante, pourquoi a-t-on l'impression étrange et persistante que bien souvent ces actes restent, si pas impunis vis-à-vis des victimes, à tout le moins anecdotiques dans leurs conséquences sur les responsables? Comment éviter de tomber dans le piège de la colère, de l'impuissance, du sentiment que nous ne sommes pas tous égaux face à la justice? Le piège de la banalisation de ces actes, de leur justification bancale. Ce soir, nous nous proposons de partiellement répondre à toutes ces questions en compagnie de la brigade Presse Purée qui n'a jamais aussi bien porté son nom, composée pour l'occasion d'Abiba. Bonsoir Abiba.
Bonsoir.
Alexis.
Bonsoir.
Florence.
Bonsoir.
Et en compagnie de deux invités de choix que nous gardons un petit mystère là-dessus, que nous allons vous présenter juste après notre première pause musicale, une pause musicale gentillette pour poser un décor, peut-être un peu désuet, à ces échanges. Voici Bourville, la tactique du gendarme.
Me doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. J'connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval du règlement. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. J'connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement.
Voilà, de retour en studio pour l'émission Presse Purée. C'était donc la tactique du gendarme de Bourvil. Et je pense que nous allons pouvoir présenter nos invités, Florence.
Alors, on a avec nous ce soir Nicolas d'Obspol, donc l'Observatoire des violences policières, et Martin de la JOC, donc les Jeunes Organisés Combatifs. On va directement mettre les pieds dans le plat et commencer avec, avec Nico. Donc, est-ce que tu le feras mieux que moi? Donc, je vais te demander de présenter en quelques mots c'est quoi l'Obspol et surtout à quoi ça sert.
Ah, grande question. Bah, Obspol, c'est un collectif au départ, dont pas mal de participants, enfin, sans donner l'idée que ce sera un grand nombre, parce qu'on n'est pas beaucoup, on n'est pas très nombreux. C'est un collectif de gens qui travaillaient bénévolement avec la Ligue, et pour certains comme moi, qui ne travaillaient pas du tout avec la Ligue, mais qui avaient envie de faire quelque chose sur le phénomène des violences policières, parce qu'on est tous militants, et on s'est tous aperçus que quand on va dans les manifs, c'est souvent qu'on est un peu l'objet d'abus policiers. Et quand on voit les chiffres que diffuse le Comité de paix, qui est le seul organe officiel à pouvoir diffuser des statistiques sur les violences policières, on disait, tiens, c'est bizarre, les nombres ne correspondent pas franchement avec la réalité qu'on vit sur le terrain. Donc on a lancé ça en 2013, à l'occasion du 15 mars, donc la journée des violences policières, qui aura aussi lieu cette année grâce à la JOC, à laquelle on s'associe. Et le but d'Obspol, qui est en fait un outil, c'est d'une part de présenter des informations aux victimes, pour savoir quoi faire. Quand je dis victime, c'est victime et témoin aussi, hein, pas les victimes directes nécessairement, pour savoir quoi faire quand ils ont été témoins d'une violence policière ou victimes d'une violence policière, c'est-à-dire sur le terrain pénal, qu'est-ce qu'on peut faire avec la justice. Pour deuxièmement obtenir des statistiques un peu plus précises, de façon à pouvoir ensuite pousser le gouvernement à, d'une part, à réviser un peu ses méthodes de calcul et ses chiffres, et deuxièmement à infléchir la politique en matière d'abus policiers. Et troisièmement, permettre aux victimes de pouvoir s'exprimer. Parce qu'on s'est rendu compte très souvent que les gens qui ont été victimes de violences policières sont traumatisés et qu'elles ont beaucoup de mal à parler de ce qui leur est arrivé. Pour elles, c'est pas normal que des gens qui sont censés les protéger les battent. Et donc il y a une espèce de réflexe de culpabilité qui fait que les victimes ont du mal à sortir du bois. Et c'était aussi l'occasion de leur donner la parole via la publication de témoignages anonymisés qu'on fait sur notre site web.
Et est-ce que vous les accompagnez par rapport à... Tu dis que vous êtes donc un lieu où la parole peut se déployer, où vous pouvez conseiller, donner... est-ce que vous pouvez aussi accompagner ces victimes? Est-ce que vous les recevez chez vous pour leur expliquer comment porter plainte éventuellement devant ce fameux comité paix?
On fait ça pour certaines victimes. On essaie de fonctionner essentiellement par notre site web, où tout est en ligne, les formulaires sont en ligne pour pouvoir déposer, et ensuite via email, parce qu'on est encore une fois très peu nombreux, c'est difficile pour nous de gérer tout ça, c'est quand même super lourd. Mais quand des gens ne peuvent pas, ils n'ont pas accès à Internet, ou ils ne savent pas se débrouiller, ou ils n'y arrivent pas, peu importe, ils peuvent nous appeler, ils peuvent nous contacter par email, et à ce moment-là, on prend un rendez-vous, on les reçoit. Par contre, on s'arrête à la partie conseil, on ne va pas plus loin. On les met bien en garde sur les dangers potentiels, et puis ce que ça coûte réellement, financièrement et moralement, d'aller plus loin et d'aller en justice contre la police. Donc on met bien tout ça en perspective, mais ensuite on leur conseille d'aller voir un avocat s'ils veulent vraiment décider d'une stratégie judiciaire. Nous, on ne fait pas de suivi de cas individuel.
Alors pour rebondir sur ce que tu viens d'expliquer avec les comités paix et les chiffres, justement en termes de chiffres, est-ce que tu as des chiffres pour faire un état des lieux sur ce qui se passe justement en Belgique, des chiffres qui parlent ou enfin bref, mm-hmm. voilà. Et alors, juste pour terminer ma question, et comment est-ce que tu expliques cette différence par rapport, donc tu parlais du comité paix, en disant que les chiffres ne concordaient pas forcément à la réalité, comment est-ce que ça s'explique?
Bah, y a plusieurs raisons. Alors, d'une part, les chiffres sont effectivement très bas, parce que peu de gens portent plainte auprès du comité paix, encore une fois, pour le même réflexe de, issu du trauma qui pour ses victimes. Deuxièmement, le mode de computation des statistiques du comité paix, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très technique, mais ne prend pas en compte toutes les violences. Et la troisième raison, c'est que très peu d'affaires, à mon avis, arrivent à un certain niveau dans la hiérarchie policière. Parce que, et c'est pour ça que je suis très content de pouvoir vous remercier de m'avoir invité tout seul, pas face à des policiers comme d'habitude ça se passe dans les médias. Parce que dans ce cas-là, ils invitent toujours un membre d'Obspol et ensuite deux policiers, un syndicaliste et un haut gradé. Et pour moi, le haut gradé, même si ses propos peuvent tenir la route et s'il a peut-être raison de son point de vue, de notre point de vue, ça ne tient pas la route parce que je suis sûr qu'il ne sait pas la moitié de ce qui se passe dans ses troupes. Il faudrait plutôt qu'ils interrogent des gens qui sont un peu plus bas, qui sont sur le terrain. Il y a très peu de choses, à mon avis, qui remontent à la hiérarchie, tout simplement parce que si la victime ne porte pas plainte, quel intérêt ont les policiers d'aller déclarer spontanément leur hiérarchie qu'ils ont battu quelqu'un ou qu'ils ont assisté à quelqu'un se faire battre. Donc pour toutes ces raisons, on ne peut pas franchement donner beaucoup de crédit aux chiffres qui sont pondus par le comité P, qui en plus sont toujours très en retard. Là pour l'instant on a les chiffres de 2014 je crois. Donc, en ce qui nous concerne nous, j'aurais bien aimé vous citer des chiffres qui parlent un peu, mais je dois insister sur deux trucs. D'une part, je n'ai pas encore ces chiffres parce qu'on est en train de préparer la prochaine édition du rapport qui sortira après, malheureusement, la journée contre les violences policières, mais si tout va bien, fin mars. Et donc, on est en train de mouliner toutes ces statistiques, de faire le tri entre ce qui est valable, ce qui n'est pas valable, etc. Ce que je peux dire, c'est qu'en gros, depuis la naissance d'Obspol, on a recueilli à peu près 400 témoignages. Qui se partagent à peu près pour moitié...
Depuis entre 2013 alors,
c'est 2013, ça. Ouais. Mm. Qui se partagent pour moitié entre victimes et témoins. Mais encore une fois, je dois mettre une réserve à ça, parce que l'Obspol, même si ça commence vraiment à se propager à Bruxelles, et un petit peu en Wallonie, ça reste quand même très parcellaire. Il y a très peu de gens qui sont au courant d'Obspol.
De votre existence.
Ouais.
Mais c'est pour ça qu'on vous a invité aussi.
Super. Et donc du coup, ça veut dire que les chiffres qu'on recueille, c'est certainement pas l'intégralité de tout ce qu'on voit. Donc, ne serait-ce que nous, déjà dans les événements qui sont organisés et auxquels on participe, ou dans les manifs qui n'ont rien à voir avec nous à titre individuel, où on y va, on voit beaucoup d'agressions qui ne sont jamais signalées nulle part. Et les gens ne manifestent ni en déposant une plainte, ni en signalant au comité paix. Il y a deux catégories de la population qui estiment que ce harcèlement policier, par exemple, c'est des trucs normaux, banals, qui font partie de leur vie. C'est les jeunes dans les quartiers, en général, qui se font contrôler 15 000 fois par mois.
On en parlera aussi.
Au bout d'un moment, ça devient tellement partie intégrante de leur vie que pour eux, c'est banal. Ça les fait rire, à la limite. Et la deuxième catégorie, c'est les manifestants, qui ont aussi, pareil, cette banalisation. Et s'ils ne sont pas victimes de tabassage dramatique...
Il laisse passer, quoi. Voilà. Est-ce que, avant, on va peut-être passer à un cas concret, justement, pour illustrer un peu ces dérives policières qu'il peut y avoir dans certains cas de figure, notamment dans le cas d'une militance. Je voulais juste vous demander, est-ce qu'il y a des tendances que vous constatez? Est-ce qu'il y a une augmentation que vous pouvez, même avec les chiffres parcellaires que vous avez, on a bien compris, est-ce que vous constatez qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du durcissement, entre guillemets?
Oui, très clairement. Il y a deux choses qui me paraissent évidentes, c'est que d'une part, il y a une augmentation des témoignages, et des témoignages à la fois victimes et des témoignages de témoins, ce qui fait que les gens commencent à comprendre qu'il faut faire quelque chose contre ça. Et deuxièmement, il y a ce qu'on constate sur le terrain, c'est une escalade de plus en plus rapide vers la violence. C'est-à-dire qu'avant, il fallait qu'il y ait une réaction de la victime qui fasse un peu acte de résistance, entre guillemets, qui est qualifié très rapidement de rébellion et qui permet de cogner sur les gens. Et puis, il y a des situations où il y a eu de la provoque de part et d'autre. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que de plus en plus, pour un mot, pour un nom, quand on dit, ou alors une question, quand on vous demande vos papiers pour vous contrôler, et que vous dites, mais pourquoi je devrais vous donner mes papiers, très rapidement, ça escalade. Et très rapidement, ça, on en arrive au coup, quoi. Mmh. Donc ça, c'est une marque, une nette tendance, et je ne sais pas si on peut corréler ça au contexte des alertes terroristes, tout ça, mais on voit que depuis 2 ans, il y a un fort durcissement à ce niveau-là, quoi.
Ok. Mais là, je crois que grâce à Florence, on va pouvoir partir sur cet exemple concret que j'évoquais avant, qui est apparu récemment dans l'actualité, qui est donc cette reclaim de street qui a été organisée, qui était une manif non autorisée. C'est telle qu'elle a été relatée dans les médias, mais qui a donné lieu, on va dire, à quelques dérapages policiers. Et donc, Florence.
On a rencontré notamment Sabine Panet. Donc il faut savoir que dans les médias, ça a été relayé de façon plus ou moins uniforme, en gros en disant une manifestation féministe dégénère. Donc c'est ce qu'on a lu dans la plupart des médias, heureusement pas tous. Donc Sabine Panet est rédactrice en chef du magazine féministe belge Axel, et donc elle nous a expliqué quelle avait été la réflexion autour de ce qui s'était passé, et notamment la réflexion qu'elles avaient élaborée autour de la rédaction de leur article. Donc c'est un article qui a été pas mal relayé sur les réseaux sociaux et qui explique notamment les détails de cette manifestation, de comment ça s'est déroulé, mais avec l'écho de ces femmes qui ont participé. Voilà.
J'ai eu à la fois les retours hyper choqués de personnes qui avaient participé à cette manifestation, d'un côté, et puis d'un autre côté, les titres de la presse que je voyais circuler sur Internet qui reprenaient tous la même dépêche, et qui étaient une manifestation féministe a dégénéré, et ça n'avait rien à voir avec ce qu'on commençait à me raconter le dimanche soir sur ce qui s'était passé pendant cette manif. Et donc le lundi matin, en arrivant à la rédaction d'Axel, on a fait le point et on s'est dit « Ok, on va urgemment traiter ce sujet parce que ça nous rendait un peu dingue de voir tout ce qui était de plus en plus partagé, une manifestation féministe a dégénéré. » Je crois qu'on commençait à se rendre compte à quel point c'était totalement en décalage, de façon très choquante, en décalage avec la réalité. Et donc, on a activé nos réseaux, les personnes qu'on connaissait qui étaient prêtes à témoigner. Je sais qu'il y a des journalistes de journaux type Le Soir qui ont essayé, peut-être dans l'urgence, de contacter des femmes qui avaient participé à la manifestation. Mais il faut savoir aussi que pour elles, c'était pas forcément le temps de témoigner le lendemain. Elles étaient dans un état de choc terrible. Il y en a qui avaient encore des bleus, qui en ont encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il faut vraiment prendre la mesure de ce qui s'est passé ce soir-là, je pense, en termes de violence envers ces femmes. Et donc, ben, y en a le dimanche, elles étaient en état de choc et pas en état d'aller parler à tous les gros médias qui avaient déjà commencé à titrer une manifestation féministe à dégénérer. Donc je pense en plus que ça les rendait très très en colère, ce qu'on peut comprendre. Et donc le lundi midi, on en a retrouvé certaines dans le centre de Bruxelles qui ont bien voulu venir nous rencontrer. Et des femmes de différents ancrages et qui étaient toutes participantes à cette manifestation. Et donc, elles nous ont raconté longuement ce qui s'était passé. Une fois qu'on a eu toutes ces versions, qui étaient très intéressantes aussi parce que c'était des femmes qui étaient situées à différents endroits de la manifestation. Et donc, elles ont vu des choses différentes et elles ont aussi vu les mêmes choses. Donc, on a écrit cet article et je tiens à dire qu'on l'a fait aussi en demandant leur avis aux femmes qui ont témoigné. Si elles étaient d'accord, parce que parfois en tant que journaliste, on peut simplement prendre la parole des personnes et partir du principe que, bah, puisqu'elles nous ont confié cette parole, on peut en faire un peu ce qu'on veut, et à partir du moment où il y a une relation de confiance qui s'établit avec la journaliste. Sauf que là, on est dans des circonstances un petit peu particulières, puisque certaines sont en train de réfléchir à intenter une action en justice, et que donc elles doivent faire attention à ce qu'elles disent. Donc on a pris le temps avec elles de revenir sur l'article avant la publication pour être bien sûr qu'elles étaient toutes au clair avec ce qui allait sortir. Et puis voilà, on l'a publié et assez rapidement, je pense qu'il a été beaucoup partagé parce que le mardi, il y avait encore peu de voix dissonantes.
Je crois aussi que c'est de la part des journalistes qui sont dans les rédactions le samedi soir. Une contrainte de temps et de la part de leur rédaction. Je pense que ça doit pas être évident de se retrouver face à une dépêche où on a l'impression qu'on a une info un peu un espèce de scoop comme ça et qu'on a difficilement des contacts avec ce qui est en train de se passer. Et donc cette dépêche se retrouve sur tous les sites d'info qui ne se sont même pas donné la peine et pris le temps de ne serait-ce que retitrer. que tous les articles ne se valent pas, mais ils ont tous repris déjà le même titre qui était hallucinant de décalage avec la réalité. C'est pas la manifestation féministe qui a dégénéré, c'est la violence policière qui a dégénéré.
Retour en studio, des petites réactions à chaud. Moi, j'avais envie de demander à Nico et Martin, nos deux invités de ce soir, parce que ce que Florence elle a ramené ici comme matière, c'est aussi l'importance du traitement médiatique de ce type d'affaires, celles qui peuvent en plus dépasser le stade du petit cercle, des gens qui ouvrent, qui osent se livrer et qui en parlent. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que ça manque un peu de soutien de ce point de vue-là par rapport au traitement médiatique de ce type de dérive ?
Personnellement, je pense qu'on ne peut pas faire confiance aux médias pour relayer ce genre d'informations. Et donc, c'est hyper important de pouvoir d'une part en fait relayer ces informations via des médias alternatifs, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux grands médias pour le faire. Et alors peut-être sur ce cas particulier, je pense qu'il faut vraiment souligner que c'est pas des dérapages, parce qu'on a toujours tendance, quand on parle de la violence policière, à présenter la violence qui se produit comme un dérapage.
De l'importance des mots, qu'est-ce que tu dirais comme mot, toi ?
Eh bien moi je pense que c'est une violence qui est planifiée, calculée, systémique, et que c'est dangereux de présenter ça comme un dérapage, parce que ça occulte toute la systémique qui peut y avoir derrière.
D'accord. Et toi, Nico ?
Cette manif-là, qui était super chouette, qui était totalement pacifique et il ne s'est rien passé, il y a eu ce déchaînement de violence complètement débile, et je ne comprends pas que la police n'ait pas présenté ses excuses. C'est tellement évident que c'était stupide. Il y a des dizaines de témoignages et on a deux ou trois personnes qui nous ont déjà...
Même des badauds qui étaient complètement effarés de voir ça.
Il y a des gens qui nous ont déposé leurs témoignages. On a fait un appel pour qu'il y en ait plus. Et en plus, ce genre de choses n'a aucun intérêt. Je veux dire, il n'y avait aucune intention que ça déborde, c'était relativement calme. Il y avait quelques excités qui étaient là, anti-féministes, pour faire les malins, quoi, qui sont vus dégagés par les filles elles-mêmes. Il y a un très beau témoignage, minute par minute, de ça, en fait, qui a été publié sur le site de FPS, Les Femmes...
Ça doit être... parce que l'article dont parle la journaliste, là c'est une journaliste d'Axel, c'est très factuel en fait, c'est une espèce de chronologie,
heure par heure
de ce qui s'est passé lors de cette manif quoi.
Nous l'avons republié sur notre site, il est très éclairant en fait, et il a l'air vraiment objectif. Si on ajoute ça aux quelques vidéos qui ont circulé, c'est clair que...
Je pose vite une dernière question par rapport à ça, et c'est pour toi Nico, qu'en est-il justement des témoignages de femmes par rapport aux violences policières, et qu'en est-il simplement des violences policières par rapport aux femmes ? Enfin, qu'est-ce qui se... Est-ce qu'il y a un constat par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a une constante ? Je ne sais pas.
Les femmes sont autant victimes que les hommes. Il n'y a pas de différence entre les deux. Les écarts ne sont pas significatifs. Moi, j'aurais tendance à dire que les femmes portent plus facilement plainte ou vont plus souvent signaler leur agression que les hommes. Encore une fois, est-ce que c'est ce réflexe de banalisation ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que les femmes sont plus victimes que les hommes. C'est vraiment kiff-kiff. De la même manière, il n'y a pas de profil général des victimes. Pour certains types de violences, comme je disais tout à l'heure, pour le harcèlement, le contrôle au faciès, c'est clair que si on n'est pas blanc, si on n'habite pas à Uccle, etc., on a 10 fois plus de chances, 100 fois plus de chances de se faire contrôler. Mais en dehors de ça, pour se faire cogner sur la gueule, il n'y a pas de profil particulier.
Tous égaux devant la violence structurelle. Alors, moi, je vous propose de refaire encore une petite pause musicale, une petite pause défouloir, là, après tout ce qu'on vient d'entendre. On va repartir sur un classique, un extrait de la bande originale du film La Haine. C'est Cut Killer et NTM Nick La Police.
This is a DJ Underground exclusive. One, two, three, four. Assassin's in a party. Wake up, baby.
enchaîne direct sur un biba parce que...
Oui, mais ce sera pas long. Hein.
Ah, on est à l'antenne, c'est Presse Purée sur Radio Panique, excusez-nous, on faisait notre petite popote interne du coup. Donc on est de retour en studio avec Martin cette fois, donc Martin qui est un fier représentant des jeunesses organisées et combatives, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Que sont les jeunes organisés et combatifs ?
Donc les jeunes organisés et combatifs, donc c'est une organisation de jeunes, une organisation militante qui est implantée dans les quartiers populaires, donc autant en Wallonie qu'à Bruxelles. Et donc c'est des jeunes qui pratiquent l'autogestion pour lutter contre les formes d'oppression qu'ils rencontrent au quotidien. Et parmi ces formes d'oppression qu'on rencontre, notamment dans les quartiers populaires et dans les mouvements sociaux, donc des endroits où on est très impliqué, c'est la violence policière.
Et donc vous avez décidé de lancer une campagne qui s'appelle Stop Repression.
Ouais, tout à fait. Donc c'est déjà en fait une vieille campagne, enfin une vieille, elle est toujours d'actualité, mais donc elle a déjà une histoire. Donc ça fait 6 ans. Qu'on organise cette manifestation, donc ça va être la 7e édition.
Le 15 mars.
Donc tout à fait. Donc l'idée, c'était, après une grosse répression lors d'une euro-manifestation en 2010, il y a énormément de gens qui sont interrogés de savoir ce qu'on pouvait faire pour lutter contre ce phénomène. Et donc c'est comme ça qu'est née la campagne Stop Répression, donc vraiment d'un événement un peu traumatique et surtout de la volonté de s'organiser pour créer du changement.
Et donc, qu'est-ce que quoi ? En quoi ça consiste ?
Alors, la campagne, elle a tout de suite voulu en fait englober la violence policière et les violences d'État dans leur globalité. Donc, il y a 5 axes qui ont été déterminés. Mais donc, pour pouvoir autant travailler sur la réalité du jeune de quartier qui vit des contrôles à longueur de journée, qui vit une humiliation policière, et à la fois pour parler aux gens qui sont impliqués dans les mouvements sociaux. Et pour justement réunir ces différents publics, travailler ensemble contre la répression policière, et construire s'organiser pour pouvoir intervenir dans l'espace public. Parce que c'est, comme disait Nico, voilà, y a vraiment une difficulté à obtenir des témoignages et à traiter la question. Et donc on s'est dit qu'on allait se mettre ensemble pour porter cette thématique.
Et concrètement, excuse-moi Martin, on est un peu speed du coup, mais concrètement ça consiste en quoi ? Quand tu parles de
le 15 mars, le 15 mars à 17h, c'est le parvis de la gare du Nord, une grande manifestation pour défiler dans Bruxelles, pour être ensemble, souvent des gens qui ne se côtoient pas au quotidien, mais pour dire qu'on est unis d'une part contre les violences policières, mais même plus largement contre toute la violence d'État.
Et donc rendez-vous le 15 mars en gros.
Non, mais attends,
essentiel,
je
t'amenais
pas à plier le truc en 4 secondes, je me disais, par rapport à l'accompagnement, c'est... Vous apprenez leurs droits aux gens. Enfin, est-ce qu'il y a aussi toute une campagne que vous menez de fond, si tu veux, dont cette manif et l'émanation, on va dire, plus concrète, c'est-à-dire une espèce de rassemblement
oui,
contre
tout à fait.
Ce type de violence, quoi.
Donc, il ne s'agit pas de notre rassemblement annuel, voilà. De notre promenade dans les quartiers de Bruxelles. Donc, effectivement, il y a un travail qui est fait au quotidien. Ce travail, il est très spécifique en fonction des endroits où on est implanté. Donc, les JOC s'occupent parfois de cas individuels et prend en charge la médiatisation de certains cas individuels en fonction de nos capacités. Et surtout, essaye de favoriser l'auto-organisation dans les quartiers, dans les mouvements sociaux, de faire de la sensibilisation et surtout d'être un espace où les gens qui vivent la répression policière, la violence d'État, peuvent s'organiser et s'organiser entre eux pour porter leur message. Et surtout, pour ne pas seulement le porter comme individu victime ou individu sensibilisé, mais pour porter un message collectif et une parole collective.
D'accord. Et donc, dans ces populations, on va dire, très fragilisées aussi, que ce soit les jeunes dans les quartiers, il y a aussi les sans-papiers.
Oui.
Et donc, je pense qu'Abiba, elle a à cœur de nous parler aussi d'un article qui a été publié récemment dans Kairos et qui évoque les rapports entre police et violence, justement, par rapport à ces populations très vulnérables.
Mais voilà, donc, je ne veux pas être très longue.
Donc cet article fait état des violences policières à l'égard des migrants dans les centres fermés, lors d'expulsions. Et il dit que ça se passe toujours... ça se passe toujours dans la violence. Les expulsions se passent toujours dans la violence. Il y a toujours des rafles. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ah oui, le système, il est opaque et carcéral. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas de clarté par rapport aux procédures. Les sans-papiers sont vraiment, perdus. Déjà, ils ne maîtrisent pas la langue, des choses comme ça. Donc, ils sont aussi c'est aussi des gens vulnérables, parce qu'on ne sait jamais où ils sont. Parce qu'il y a 5 centres fermés et on ne sait jamais dans quel centre les trouver. Donc, ils ont mis en place une espèce de site pour les sans-papiers où ils peuvent témoigner. Ça s'appelle Getting the Voice Out. Et on lit des choses édifiantes. Sur la violence, notamment, que ces gens vivent au quotidien. Alors ici, il y a un monsieur qui est mort hier, Arvotem. Mm-hmm. Donc la situation est quand même extrêmement difficile et interpellante.
Il faut préciser que ce monsieur qui avait tenté de se suicider apparemment la veille a été placé en isolement,
oui.
Et qu'ils ont découvert sa mort le lendemain matin, ce qui donne un petit sens de ce que est vraiment l'opacité dans ce système. Pourquoi est-ce qu'on le met à l'isolement? Parce qu'il est agité, ça risque de se propager aux autres, et donc on l'isole, et là on ne sait plus ce qui se passe. C'est typique de ce qui se passe dans les centres fermés.
Et d'autant plus que l'isolement, maintenant, il n'y a plus vraiment besoin d'être agité, il y a des échos et des rumeurs, mais on met facilement, très très facilement, des gens en isolement, notamment la veille d'un départ.
Ah, systématique. C'est systématique.
Voilà, et tout est mis pour... dans le but de l'expulsion, quoi. Il n'y a pas de projet d'insertion, de s'installer en Belgique, quoi. Ça, c'est tout à fait pas du tout envisagé. C'est quand même très étrange comme façon de faire. Que dire d'autre? Parce que je fais une petite enquête pour mon journal, les Estates.
Ah, vas-y, placement de produits.
Et donc, je suis allée voir les gens du squat rue de l'Olivier.
La voix des sans-papiers.
Et c'est ça, la voix des sans-papiers. Et là, je dirais que ces gens, ils n'ont plus trop envie de parler, ils sont fatigués. Donc, c'est un peu paradoxal, mais...
Peut-être tu peux revenir un peu sur leur histoire pour expliquer pourquoi ils sont
dans ça, je me fais un peu leur voix. Un petit peu leur voix ce soir.
La voix des sans-papiers, c'est ceux qui avaient été expulsés de Ribeaucourt. Vous avez vu cette intervention avec des hélicoptères,
oui,
des mecs qui descendent casqués et qui défoncent les fenêtres, 200 policiers pour une poignée de gens, pour 80 personnes.
C'était quand ça?
C'était au mois de septembre dernier, je crois. Et donc là, du coup, maintenant, ils sont effectivement rue d'Olivier, mais ils ont une occupation temporaire et ils sont partagés en deux parce que c'est trop petit pour pouvoir contenir tout le monde. Donc en plus, le mouvement a été séparé en deux. Enfin, ils ont bien réussi leur coup, les flics. Là.
Et là, je crois que la violence, elle s'exerce d'autant plus que d'un point de vue médiatique, on parle beaucoup des politiques migratoires, mais par contre, on ne parle pas de comment ça se passe. Enfin, évidemment, c'est pas accessible, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des centres, d'où l'intérêt d'organisations comme Getting the Voice, etc. Mais on ne parle jamais de comment se passent ces expulsions. Et ça, c'est d'autant plus violent parce que finalement, on reste un petit peu dans des rumeurs, dans le flou, quoi. Donc,
Si les violences policières sont, enfin, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça, sont inadmissibles, à quelque niveau qu'elles soient, et quel que soit le comportement de la personne qui en est victime, un comportement qui a pu déclencher l'action policière. Quand on parle des migrants, là on n'est plus dans l'inadmissible, on est dans l'innommable. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que ça se passe dans des endroits où les gens ne peuvent pas aller, qui ne voient pas, c'est en bordure d'aéroport, c'est complètement bouclé. Systématiquement, dès qu'il y a des problèmes, c'est des mesures de répression comme le truc typique de la mise en isolation. Ce gars-là a tenté de se suicider hier, la veille, de sa découverte, parce qu'il ne supportait plus d'être en prison alors qu'il n'avait rien fait de mal, il n'avait juste pas de papier. Mmh. Voilà. Et ça, l'administration ne peut toujours pas se mettre dans la tête parce que ce n'est pas, c'est pas porteur politiquement. Donc l'étranger, il n'a pas sa place chez nous.
Il ne vote pas déjà l'étranger. Hein. Il n'a pas le droit de vote, l'étranger.
Oui, déjà. Donc voilà, l'étranger, c'est quelqu'un qu'on essaye de dissimuler le plus possible. Et ce qui se passe dans les centres fermés, heureusement qu'il y a Getting the Voice Out et d'autres intervenants qui vont visiter, parce que sinon on ne saurait rien.
Et Martin, toi qui disais justement que vous étiez une espèce de force comme ça qui essaye... d'autonomisation par rapport à une lutte, une défense, etc. Est-ce que vous avez prise avec ce type de public qui, donc, comme je le disais, ouais, sont particulièrement vulnérables à des maltraitances, qu'elles soient policières ou sociétales, hein, on est bien d'accord, mais voilà.
Oui, non, tout à fait. Et d'ailleurs, souligner que jamais un sans-papier n'ira porter plainte auprès de la police ou signaler comme étant victime de violences policières. Donc vraiment une invisibilisation qui est terrible et qui en plus vise un public particulièrement fragile. Donc on imagine que les abus sont particulièrement nombreux. Et donc oui, nous on essaye de favoriser l'auto-organisation des gens. Ce qui est formidable, c'est que les sans-papiers ont pris en charge leur lutte et sont indépendants d'autres groupes, et ce qui est vraiment quelque chose de très positif. Et donc, effectivement, cette année, l'appel pour le 15 mars a été rédigé en commun et cible plus spécifiquement au-delà des violences policières, la violence d'État, et notamment cette violence de l'État qui renvoie des gens dans des pays qui souvent ils ont quitté il y a longtemps ou n'ont pas forcément d'attache, dans des conditions inhumaines. Donc cette violence de l'État qui expulse, qui déporte, mais aussi qui mène une guerre aux sans-papiers ici à Bruxelles et dans les autres grandes villes de Wallonie. Et donc je pense que c'est vraiment important qu'un public, mine de rien, disons-le, favorisé, parce qu'on est dans une organisation qui est reconnue, qui est subsidiée, avec... c'est important en tout cas que les plus privilégiés puissent se solidariser avec les gens qui sont dans des plus grandes difficultés, justement pour pouvoir d'une part se protéger le plus possible, mais surtout renforcer nos voix sur ces combats-là.
Ok. Petit jingle presse-purée.
Alors t'accouches ?
Attention, normalement, article 417 du code pénal, j'ai droit à...
T'as droit à ça !
Mais moi, j'y suis pour rien, hein.
Eh ben, il y a quelqu'un qui peut te réchauffer un peu.
Respirer.
Ouais, ouais. Non, tout à l'heure.
Qui c'est ça?
Respirer, c'est un mec, quand il te lâche, t'es comme de la mousseline.
Ah bon?
Et il t'éclate le foie sans laisser aucune trace. À l'extérieur.
Ah bon? T'es comme un patin en croûte, tu vois, dehors t'es tout propre, tout lisse, mais alors à l'intérieur, t'es comme du hachis.
C'est le roi de l'hémorragie interne, Respirer.
Voilà, voilà. Alors... on ne l'attendait pas, il n'était pas prévu, mais nous avons un invité spécial qui s'est rajouté en dernière minute dans cette émission. Professeur Sourire, bonsoir.
Oui, bonsoir Dite.
Avant de commencer, professeur, une question. Avez-vous une sensibilité de gauche?
Pas du tout, et vous?
Également. Bien. Qui dit violence d'État dit violence policière. Ces derniers temps, les bavures ont tendance à ressembler à des océans.
Absolument. Nous pourrions citer beaucoup de noms. Arrêtons-nous sur le dernier en date, Théo, ce jeune homme violé par accident, par un bâton télescopique de défense, nom officiel de cette arme familièrement appelée matraque. Demandant sa réaction sur l'affaire, un journaliste hexagonal commence son interview de Jean-Luc Mélenchon.
Ouais !
Par les mots suivants. Une intervention virile, pour le moins. Réaction immédiate de Monsieur Mélenchon, que j'ai trouvé fort à propos. Non, pas du tout, moi je suis viril et je ne viole personne avec une matraque. Eh bien... J'ai envie de profiter de ce sursaut de saine virilité médiatique pour saluer nos sœurs, consœurs, mères, voisines, mamans, filles, amies, copines qui, comme dit plus tôt dans l'émission, se sont fait insulter, humilier, dénigrer, frapper, arrêter alors qu'elles défilaient pacifiquement ce 11 février à Bruxelles afin de se réapproprier la nuit contre les violences sexistes. Allez, toujours debout les filles.
Ouais.
Alors merci pour cette entrée en matière, professeur. Ce vilain gauchiste de Mélenchon qui ne viole personne avec une matraque, mais s'apprête quand même à enculer à sec plus de 40 millions d'électeurs, comme les autres mégalomanes. Hein.
Oui, j'aimerais qu'on cesse avec ce mot qu'on entend partout.
Matraque ?
Non, vilain, je n'aime pas.
Bien, excusez-moi. Alors, professeur, cette histoire avec Théo ?
Mademoiselle, cette dernière phrase-là, que vous venez de prononcer, est la plus importante de ce billet. L'alpha et l'oméga pour moi de la situation locale, sociétale, globale, mondiale, universelle, cosmique peut-être, et je pèse mes mots.
Tout ça. Alors, vous m'envoyez fort Marie, mais il va falloir condenser le cosmos en 5 minutes. Hein.
Ennuyant dans un univers en expansion. Pardon, humour d'astrophysicien.
Allez.
Bien. Procédons avec méthode. Hein. Alors, professeur, cette histoire avec Théo. Eh bien, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons là un jeune homme de 22 ans à qui un bâton télescopique de défense arrive donc par accident dans le pet, ou dans les fesses, comme on dit en France. Ce qui saute immédiatement aux yeux, qu'est-ce que c'est, mademoiselle ?
Je ne sais pas.
C'est le prénom de la victime, évidemment. Certes, pas choisi au hasard, les policiers connaissent bien mieux les jeunes de banlieue qu'on ne le dit. Théo, donc. Diminutif de Théodore, prénom d'origine grecque signifiant « Dieu » et même « Don de Dieu ». Ne sommes-nous pas là devant une tentative évidente de laïcisation de nos banlieues par les cerbères de la République en réponse à un retour du fondamentalisme religieux chez le jeune de Tessie ? C'est un procédé minable, odieusement perpétré. Alors que vont-ils faire ensuite ces anges bleus de la République super plus ? Continuer à provoquer notre jeunesse issue d'une tradition différente en remettant en selle le concept de prêtre-ouvrier, le transformant en prêtre-policier ? Et quoi ? Remplacer les matraques par des cierges consacrés afin de réinstaurer ainsi en profondeur un fondement religieux chez nos jeunes désorientés, ou bien juste jeunes ?
Ce qui est souvent un peu la même chose d'ailleurs, professeur.
Hein ?
Non, rien, continuez.
Moi j'ai fini.
Ah. De dimension cosmique, ce billet, effectivement, professeur, le studio tiendra-t-il ?
Excusez-moi, mademoiselle, je suis emballé. Mon chéri à midi, tout ça, vous savez ce que c'est.
Comment réagit la famille de Théo ?
Écoutez, j'ai une vision mondiale, mais je ne les connais pas personnellement.
Non, je veux dire dans les médias.
Ah oui. Écoutez, elle réagit plutôt avec la même classe que Monsieur Mélenchon.
Ouais !
La famille appelle au calme et à la dignité et ira bien sûr en justice.
Qu'en est-il à l'heure actuelle ?
Eh bien, écoutez, c'est votre jour de chance. Je lis rarement le journal du jour, mais justement, ce matin, j'étais chez mon gastro-entérologue, hein, c'est un ami, et sur la table basse de la salle d'attente, entre Spirou et Sanglier Passion, je tombe sur le journal Le Monde daté de ce jour.
Fascinant. Quel travail d'investigation journalistique, professeur.
Ouais, et vraiment un gros coup de bol familial. J'avais déplacé mon rendez-vous initial à cause de l'opération anale, justement, synchronicité, de mon épouse. Et second coup de bol, mon ami médecin n'avait pas acheté ce jour-là ce torchon du soir.
Ouais.
Qui, comme chacun le sait, est le chien de garde.
Oui, merci, professeur. Pas de publicité, nous saluons nos confrères du soir. Comment en est-on arrivé là, entre les jeunes et la police ? Il semble ne plus y avoir de communication, ni de respect. Quelle solution pragmatique avez-vous récoltée dans cette salle d'attente ? Parlez, bon sang, c'est insoutenable.
J'y arrive, mademoiselle, j'y arrive. Donc plusieurs politiques dénoncent les BST, les brigades spéciales de terrain créées en France en 2010, qui ne sont pas sans rappeler les tristement scellés pelotons des voltigeurs motoportés qui avaient tué en 86 Malik Oussekine, nos auditeurs les plus âgés s'en souviennent sans doute, un étudiant franco-algérien. Voilà, bref, pour la parenthèse. On reproche donc aux BST leur réputation de violence et certains hommes politiques ainsi que des citoyens regrettent la police de proximité. Interviewé dans une émission télévisée, le frère de Théo rappelle d'ailleurs qu'il n'était pas rare, il y a quelque temps, que l'argent de quartier joue au foot avec les jeunes, ce qui serait impensable aujourd'hui. La question du respect, c'est aussi une question de proximité, si vous voulez mon avis. J'ose faire le parallèle avec la situation du métro bruxellois dans les années 70, où il y avait un poinçonneur en plus du conducteur. Tant les travailleurs que les passagers y trouvaient leur content, tranquillisés par ce climat nettement plus humain, apaisant et moins répressif que ces tristes mobibes et autres portillons automatiques. La stipe des années 70, un conducteur qui conduit et un poinçonneur qui lila. Marche à suivre aux usagers perdus et poinçonne, rend l'argent.
Un vrai service public.
Absolument !
On parle aussi beaucoup des mauvais éléments qui gangrèneraient le corps policier, lui donnant une mauvaise image.
C'est exact. Certains, dont Monsieur Mélenchon,
ouais,
n'hésitent pas à parler de purges nécessaires à faire dans la police, d'ailleurs.
Qu'en pensez-vous, professeur ?
Écoutez, je pense que le viol est un des actes les plus dégradants qui soit pour la personne humaine, soyons clairs. Il est notoire que le système judiciaire et policier entretiennent des liens étroits et que beaucoup de policiers sont disculpés de chefs d'accusation. C'est aussi une problématique structurelle. Dans un système pareil, est-il possible de dégrader les dégradants ?
Oh, le double sens, c'est joli.
Ah, vous savez, faisons confiance à la langue plutôt qu'à la matraque pour se donner du plaisir à vivre ensemble.
Ouais. Oui, professeur, bon, Donc, une purge semble difficile. C'est tout un système qui est en place.
Écoutez, il existe quantité de corporations qui devraient compter dans leur rang des éléments que les anciens appelaient la crème de la société et qui pourtant auraient besoin d'être purgés de leurs nuisibles. J'ai moi-même été enseignant du primaire dans une vie antérieure avant de faire la passerelle d'un an en astrophysique et la nomination des profs, c'est la meilleure et la pire des choses, croyez-moi. J'ai vu des choses en centre ADEPS qui sortaient largement du cadre de classe.
Mais de quoi parlez-vous ?
Écoutez, la justice m'interdit d'en parler encore durant 2 ans, mais si vous me réinvitez, je suis prêt à m'étendre à nouveau sur le sujet.
Abrégeons.
Donc la police dénonce également le manque de moyens dont elle dispose et le manque d'effectifs. La société a-t-elle besoin de policiers ? Je vous invite à lire l'article du sociologue Mathieu Rigouste sur le site de nos excellents confrères français de Ballast qui explique que pour lui, la violence policière est justement avant tout une question structurelle et pas qu'une question d'individus plus ou moins racistes, limités, comment dirais-je ?
Vilain ?
J'avais demandé de...
Ça va, professeur, continuons. Et pour Théo, l'agression a eu lieu le 2 février, nous sommes le 3 mars. Comment l'enquête évolue-t-elle ?
Écoutez, 3 policiers sont mis en examen pour violence. Quant à l'utilisateur du bâton télescopique alias Matraque, il a été mis en examen pour viol. Il a prétendu que le geste était accidentel et l'IGPN, la police des polices, écarte également toute idée de viol délibéré. Incroyable, me direz-vous. Après le délit de sale gueule, la torture légale, le tutoiement facile et le mauvais goût en termes de chapeau, la maréchaussée invente le concept de viol accidentel. C'est brillant. Chef, en 4 lettres ici, accidentel. Bon, enfin, inquiète, c'est quand même pas difficile. Hein. Allez, c'est viol. Il s'agit donc bien d'un viol par accident, selon eux. Un autre policier, ancien formateur en technique de bâton de police, nous explique dans une vidéo sur le site de l'Obspol que ce n'est pas possible qu'une matraque se retrouve là. Qui l'eût cru ? Il rajoute, sauf si Théo a un anus dans le dos au-dessus des lombaires.
Et vous pensez que c'est possible, professeur ?
Hélas ! Contrairement à des policiers sains, équilibrés et qui ont conscience de faire leur job en étant au service du citoyen, un anus dans le dos, ça n'existe pas.
Sauf si je me retourne maintenant, professeur.
Oui, un vrai genre.
Après vous.
Écoutez, il y aura encore bien des choses à dire sur cet acte de toute façon dégueulasse et inacceptable.
Un mot pour terminer ?
Non, 2. Si l'histoire des cierges du début de ce billet vous a fait fondre, chers auditeurs et surtout auditrices, n'hésitez pas à aller écouter Mélanie, la chanson de Tonton Georges Brassens en vous bourrant une bonne petite pipe. Deuxièmement, et la boucle sera définitivement bouclée, le 8 mars, c'est la journée de la femme un peu partout dans le cosmos, mais un peu plus dans certains pays que dans d'autres. Alors, apportez votre femme à Radio Panique, ceux qui en ont une. À 18h, discussion mécanico-mystique ouverte autour du dernier modèle d'Opel Astra Vintage, avec cette sous-question. L'Astra est-elle éternelle ? Si oui, Dieu est-il protestant ? Ça va être votre fête, les femmes ! Bisous à toutes !
Respirez, l'actualité passe à la moulinette.
Flash info, parlons sécurité encore. Comme tout le monde, la rédaction de Presse Purée a appris hier avec stupéfaction l'interception policière d'un radicalisé, forcément louche, qui transportait dans le coffre de sa voiture des bonbonnes de gaz du côté de la porte de Halle de Bruxelles. Cette affaire reste fort trouble pour l'instant, mais pour tenter d'en savoir plus, nous avons contacté notre Premier ministre en nous faisant passer pour CNN. Et il est tombé dans le panneau. Voici son intervention en exclusivité dans Presse Purée.
Thank you for the invitation. Yeah, we have the situation under control. A few terrorists were planning an attack. The Belgian security services have very good worked together. My government has taken a few very concrete measures. We are very vigilant for the future. Yeah, we have the situation under control.
Nous voilà rassurés. Donc...
Merci Michou.
Merci Charles. C'est, malheureusement, cette émission fort passionnante touche à sa fin. Je pense qu'il y a plein de choses encore à dire sur le sujet, mais on se fera un plaisir, en tout cas, de mentionner toutes les références dont on a parlé, le site de l'Obspol. On invite tout le monde à venir manifester le 15 mars pour cette campagne Stop Répression. Alors, je ne sais pas, un petit mot de la fin pour nos deux invités qu'on remercie énormément d'être venus nous éclairer ce soir sur ces phénomènes. Martin, peut-être, pour commencer ?
Tout simplement pour dire que moi, les policiers me terrorisent. Quand j'en croise dans la rue, ils me font peur. Et que l'idée du 15 mars, c'est de se mettre tous ensemble, parce que tous ensemble, on a moins peur. Et c'est déjà important.
merci. Nico ?
D'accord avec Martin. Moi, plus il y en a, et plus ça me fait peur.
Ils sont quand même marrant, pas tous méchants.
Mais voilà, moi, ce que je voudrais dire, c'est ne restez pas dans votre coin. Si vous avez vu des gens se faire tabasser, ou si vous avez vu, ou si vous avez été agressé vous-même, témoignez. Témoignez en portant plainte sur le site du Comité P, via les formulaires que vous trouverez plus facilement sur notre site à nous.
C'est www.obspol.be, c'est ça ?
Il n'y a pas de www.obspol.be direct.
Obspol.be,
voilà. Okay. Et deuxièmement, aussi témoigner sur notre site via nos formulaires en ligne. On en a un pour les victimes, un pour les témoins. C'est fondamental, comme ça on aura les deux. On verra si tous les chiffres sont bien pris en compte d'un côté, le côté officiel, et on aura la réalité terrain via les statistiques d'Obspol.
Ben merci à tous, merci à Biba, merci Florence, merci Alexis, alias Professeur Sourire.
Merci.
Et on va continuer, on va essayer de terminer sur une touche un peu d'amour et d'espièglerie avec une petite chanson de Frédéric Fromet qui sévit sur les ondes de France Inter et dont la particularité est de traiter l'actualité en chanson. Bonsoir à tous, merci d'avoir écouté Presse Purée. On vous laisse et on vous retrouve dans un mois si tout va bien. Bonne soirée.
Mon policier, je lui fais des bisous, même s'il a un gros nez et qu'il est bête comme tout. Des bisous très mignons sur la joue, les cuissons. Pas besoin d'être alcoolique pour embrasser un flic. Je lui dis pas que sa maman fait l'amour pour de l'argent. Non, 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 non. Et si mon petit cœur palpite, que je fais des rêves érotiques, je lui dis pas que je le nique. On a peut-être pas envie, hein. Moi à mon policier, je lui fais des bisous d'amitié quand c'est pas l'amour fou. Je crame pas sa bagnole, même si les copains rigolent. L'idée est très mauvaise, le flic n'est pas une merguez. Pendant ce temps-là, que fait la police ? À mon jeune dans la rue, je lui fais des bisous. Je touche pas à son cul, je lui dis pas tu, je lui dis vous. Je lui demande pas ses papiers 30 fois dans la journée. Même s'il est plus bronzé que moi, je l'appelle pas Bamboula. Le gantuf. Je lui dis pas qu'est-ce tu fous. Je t'ai vu courir partout. Je lui mets pas les menottes, je ne l'emmène pas au poste. C'est peut-être Usain Bolt ou Sarko qui fait son footing, hein. À mon jeune dans la rue, je lui fais des bisous. Je le mets pas en garde à vue quand il n'a rien fait du tout. Je le traite pas de racaille parce qu'il n'a pas de travail. Je lui dis pas passe ton bac quand je ne suis qu'à la bac. Bref, aimez-vous les uns les autres. Moi à mon policier, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Plus de matraque, plus de flingue, on se fait des bisous magiques. Et tant pis si ça chlingue quand c'est l'inspecteur d'Eric. Je fais des bisous à mon keuf, même si c'est pas ma meuf. À mon jeune dans la rue, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Tout le monde se fait des bisous et des gros câlinous. Tant pis à la limite, si ça sent un peu le shit. T'es mon lascar préféré, toi aussi mon petit poulet.
Yeah.